Boomerang avec un immense metteur en scène de théâtre américain, c'est un art de l'espace, de la vision qui se déploie dans ses mots, dans ses phrases. C'est notre cadeau, Bob Wilson dans Boomerang. C'est parti. Je me souviens un jour d'avoir entendu la grande comédienne Catherine Yeagel répondre à un journaliste qui lui parlait du respect du texte, que pour elle, le théâtre, ça n'était pas le texte, c'était d'abord le silence. Et j'y pense souvent à ce qui se joue dans le silence, dans le blanc, précisément parce que rien n'est moins blanc que le silence. Il a toujours une couleur, du noir ou du gris jusqu'au jaune le plus éclatant, du rouge colère ou du rose troublé, du bleu mélancolique au vert embarrassé, silence que l'on écoute aussi bien que les mots parce qu'il dit surtout à la radio, tout ce qu'on ne peut pas entendre. Le silence de radio, qui n'a rien du silence radio, c'est le lieu de l'émotion, celui que l'on cherche souvent pour qu'il se joue quelque chose, celui que l'on trouve seulement quelquefois au moment où on ne s'y attend pas, celui qui vous saisit, que l'on étire, que l'on chérit, parce qu'il révèle soudain qu'on est humain. À l'heure épileptique de la parole folle, de l'injonction au discours, au jugement, à la vie sur tout et sur rien, à l'heure de la reprise, de la réaction, de la redite de petites phrases destinées à faire toujours plus de bruit, de clics, de buzz, à l'heure des mots suturés comme des points de suture, des mots écrits et réécrits qu'on édicte et qu'on récite comme des perruches ou des pantins, rien ne vaut le silence chargé, le beau silence de résistance.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Avec quel silence travaille mon invité d'aujourd'hui ? Il est metteur en scène et artiste aussi. Né au Texas, la France le découvrait au début des années 70 avec le regard du sourd. Depuis, il n'a cessé de nous éblouir avec son théâtre d'images expressionniste, de nous troubler de ses tableaux vivants et de nous emporter aussi de ses silences hypnotiques. Bonjour Bob Wilson.
Good evening.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a de beau dans un silence ?
Well, all of my work usually starts in silence.
Toute mon œuvre commence par le silence. Ma première pièce durait 7 heures et c'était muet. Ensuite, j'ai fait une pièce de 24 heures, muette. Puis une œuvre qui durait 12 heures, de 7 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin, muette aussi. Et puis j'ai fait une pièce qui durait 7 jours et muette.
Mais pourquoi le silence ? Pourquoi est-ce que c'est si beau ?
Je crois que si l'on écoute le silence, on prend conscience que le silence, ça n'existe pas. C'est John Cage qui l'a dit. Si on écoute les sons, le silence, et si l'on produit volontairement un son, qu'on parle, qu'on chante, qu'on joue du violon, on dirige un orchestre, ce son se prolongera.
Vous voudriez dire, Bob Wilson, qu'aujourd'hui, plus que jamais, le silence est précieux ?
Le silence devient précieux et important, surtout dans les villes où il y a tellement de bruit et d'agression. J'étais à New York, il y a tellement de bruit. Nous avons besoin de lieux vers lesquels nous échapper et avoir le temps de réfléchir.
Le théâtre, peut-être ce lieu-là, évidemment. On parle de silence, Bob Wilson, et vous le disiez, vous lui avez accordé une place considérable, notamment dans vos premières œuvres. Je pense au regard du sourd. Par quel hasard en êtes-vous venu à faire du silence ce matériau de travail ?
Ça a été écrit avec un garçon afro-américain de 13 ans, sourd, qui n'était jamais à l'école et ne connaissait aucun mot. Il comprenait le monde à travers des signes et des signaux visuels. Et quelque chose de bizarre s'est produit. Quand je l'ai rencontré, peu après avoir fait sa connaissance, je me suis rendu compte que son corps ressentait les sons, pour autant que l'on puisse mesurer son audition au niveau des tympans, jusqu'à 110 décibels, il n'entendait rien. Mais dans un certain sens, il entendait, parce que son corps ressentait les vibrations sonores.
C'est passionnant. Comment est-ce qu'on fait parler un corps, Bob Wilson ? C'est la question que vous posez.
En tant qu'artiste, on me connaît surtout comme plasticien. Là, nous sommes quatre dans cette pièce, et si nous n'entendions aucun son, nous commencerions à lire d'une autre façon la communication qui s'établit entre nous, assis en ce lieu. Beaucoup de gens ont peur du silence, à la radio, à la télévision, surtout. Toutes les stations doivent constamment être en train de diffuser du son qui change très rapidement. Je viens de faire une pièce de théâtre radiophonique en Allemagne et le producteur était très tendu parce que j'y avais mis des silences dans un programme de radio. Mais on l'a fait et tout le monde était surpris parce que ça a été très bien reçu et nous avons remporté plusieurs récompenses.
Si on revient au corps et on prend par exemple le corps d'Isabelle Huppert que l'on retrouvait dernièrement dans la pièce Mary Said What She Said, mais que vous aviez déjà dirigé dans le passé dans une adaptation de L'Orlando de Virginia Woolf ainsi que dans Quartet de Herta Müller, que faites-vous du corps d'Isabelle Huppert ?
Isabelle est extraordinaire. Elle est différente de beaucoup d'actrices avec lesquelles j'ai travaillé ou que j'ai rencontré. Mon œuvre, je l'ai débutée par le silence, avec des mouvements. J'établis un langage visuel avec le corps. Ensuite, j'ajoutais un texte. Et la plupart des metteurs en scène commenceraient par le texte, par dire le texte, par une interprétation du texte. Mais moi, je commence par le langage du corps. Certains anthropologues croient que l'homme gesticulait avant de savoir parler, et à travers le mouvement, les sons se sont renforcés pour devenir des vibrations de plus haute fréquence. Liées à des pensées, le langage s'est formé, mais il s'est formé à partir du corps.
Et quel langage du corps est-ce qu'elle parle, Isabelle Huppert, Bob Wilson?
Eh
bien, elle sait ce qu'est l'immobilité. Et si vous êtes conscient du mouvement et de l'immobilité, tout comme on est conscient du son et du silence, alors ça ne fait plus qu'un. Isabelle ne craint pas l'immobilité. C'est sa force. Kleist a dit qu'un bon acteur est comme un ours. Il ne bougera jamais le premier. Il attendra que vous fassiez le premier geste. Elle l'a probablement appris au cours du temps, parce qu'elle a travaillé pour le cinéma. Et le cinéma, c'est les gros plans. Le mouvement d'un œil, le moindre mouvement peut être énorme.
Ça m'amuse qu'il dit ça, parce que j'arrête pas de bouger dans les spectacles de Bob Wilson. Bouger, c'est peut-être pas le mot qui convient. Mais c'est un mouvement constant, ininterrompu. J'arrive à m'immobiliser parfois, brusquement, sans raison, sans demander pourquoi, et à repartir. Mais il me prête une disponibilité, une capacité qui est en fait est la sienne. Car c'est lui qui, à la fois par le son et par l'image, recrée la sensation du gros plan. On a le sentiment d'être en silhouette, en plan général, et puis tout d'un coup, on accède à une intériorité et à une intimité. Mais ça, c'est lui qui le fabrique, autant que moi. Il a une présence extraordinaire, Bob Wilson, quiconque l'a rencontré le peut le ressentir. On a vraiment l'impression qu'il instaure, pour peu qu'on veuille bien l'écouter et le comprendre, une sorte de langage invisible entre lui et la personne qui l'intéresse, qui est en face de lui, qui passe pas par des mots, qui passe pas par des explications. Il émet quelque chose par son regard, par son corps. Il a tous les mouvements que j'accomplis dans son spectacle, ils viennent de lui. Il me les montre. Il ne travaille pas sur le sens du texte, pas du tout. Donc c'est du rythme, c'est des déplacements, c'est même pas des sentiments, des sensations et l'expression de ces sensations à des niveaux sonores extrêmement variés. Du murmure au cri. Donc il y a toute une intensité qui se déploie, propre à, in fine, à retrouver le sens, mais d'une manière assez mystérieuse et pas du tout indiquée à travers des mots proprement dits. Je trouve avec lui des ressources physiques. Il convoque en chacun le danseur, peut-être pas tout à fait l'acrobate, mais une certaine souplesse, enfin toutes sortes de choses qui, moi, ne me disent pas grand-chose autrement que dans les spectacles de Bob Wilson. Il a évidemment cette quelque chose de très obsessionnel avec les positions des mains, parce que tout se fait aussi en accord avec les lumières. On sait combien les lumières sont essentielles dans l'esthétique de Bob Wilson. Les doigts doivent se déployer d'une certaine manière et pas d'une autre. Ça donne quelque chose d'assez aérien dans cette gestuelle qu'il propose et qu'il impose aussi. C'est au fond cet écart, mais prévisible, entre ce qu'on pourrait appeler la contrainte et la liberté. Il propose évidemment quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte absolue, mais bizarrement, à l'intérieur de cette contrainte, une fois qu'on a emprunté ces incroyables chemins de détour, comme si on traversait une forêt inconnue, pas du tout hostile, mais quand même comme si on arrivait dans un autre monde, mais c'est un monde qui vous amène à soi. Et ça, c'est une sensation extraordinaire. On n'a pas l'impression d'être étranger à soi-même, et c'est au fond ça le plus important, retrouver une forme de, même une sincérité absolue. Ça serait un peu la définition ultime du théâtre, en tous les cas, tel que j'ai envie de le pratiquer, c'est-à-dire un champ très vaste qui convoque aussi bien la précision d'une parole, la prophétie d'une parole, que son propre imaginaire, son intimité, et ça devient confrontation avec soi-même, en tous les cas, pour moi.
Qu'est-ce que c'est au fond un corps ? Le corps d'un acteur, pour vous, Bob Wilson?
Je pense que le corps, c'est quelque chose que l'on voit, qui produit du son. Une façon, lorsque vous êtes sur scène, d'aider le public à écouter, à lire un texte. Mon travail n'est pas interprétatif. Vous présentez une œuvre au public, vous avez vos propres idées à son sujet, mais vous établissez un dialogue avec le public. Vous lui laissez un espace pour qu'il réagisse à sa guise et se fasse sa propre idée. C'est ce qui est enthousiasmant dans le théâtre, c'est ce dialogue.
Et parmi les corps qui vous ont inspiré, je crois qu'il y a celui de Charlie Chaplin. Qu'est-ce qui, la première fois que vous l'avez découvert sur un écran de cinéma, vous a frappé dans la manière qu'il avait de l'utiliser, ce corps, dans sa façon de bouger, Bob Wilson?
Mon œuvre est formelle. Je déteste le naturalisme sur scène. Le naturalisme, c'est un mensonge. Vous mettez quelqu'un sur les planches et s'il tente de jouer naturel, ça semble tellement artificiel. Mais si vous acceptez l'artificiel, bizarrement pour moi, ça semble plus naturel. On peut aussi être plus franc avec ce que l'on fait. Ce qui me fascine avec Charlie Chaplin, Buster Keaton, c'est que tout est de la danse. Le maquillage est artificiel, le timing, les mouvements, c'est comme de la musique, de la danse. Ça n'a rien à voir avec le naturalisme. C'est une façon formaliste de faire du théâtre. Et fondamentalement, le théâtre, c'est du timing. Et le plus difficile, c'est la comédie. Et la comédie, c'est surtout du timing.
Vous dites souvent, Bob Wilson, que lorsque vous avez commencé, à la fin des années 60, à mettre en scène, avec la danse et l'architecture qui vous intéressaient, le théâtre, vous n'aimiez pas ça. Pour quelle raison? Qu'est-ce que vous lui reprochiez au théâtre?
Je n'aimais pas le théâtre parce que je n'aimais pas l'espace mental qui ne me laissait pas le temps de réfléchir à mes propres pensées. La danse est un langage universel. Et une pièce se joue avec des mots. Ce n'est pas que les mots ne soient pas importants, mais un langage universel, si vous regardez la danse, un tableau ou des photos, que vous soyez en Chine ou en Afrique, en France ou bien à Waco, au Texas, vous pouvez les lire, les comprendre. Il n'y a donc pas besoin de traduction. Je n'aimais pas la psychologie. J'ai dû découvrir ce que pensait un acteur avant de pouvoir avoir mes propres idées. J'ai donc été particulièrement intéressé par les danses qui sont abstraites, un espace mental totalement différent qui m'a simplement donné le temps de réfléchir, d'avoir mes propres pensées.
Vous diriez justement que le rôle de l'artiste a quelque chose à voir avec le fait de repenser les conventions, avec le fait d'inventer de nouvelles formes, de nouveaux langages.
Pour moi, le rôle de l'artiste est simplement de poser des questions. Pas de dire ce que sont les choses, mais de dire qu'est cela. Et si on approche une œuvre avec cette idée-là en tête, alors on peut avoir un véritable dialogue avec le public. Il s'agit de garder la porte ouverte pour avoir toujours une question à poser sur ce que vous faites, sur ce que vous dites. J'aime ce qu'a dit Gertrude Stein. Il lui demandait « Ah, Madame Stein, parlez-nous de l'art moderne !» Elle répondait « J'aime le regarder.
» Ça passe chez vous par la création d'images, justement de tableaux, de scènes visuellement très sophistiquées, Bob Wilson, notamment grâce à l'usage que vous faites de la lumière. En quoi est-ce que le théâtre, pour vous, c'est d'abord de la lumière ?
La lumière, pour moi, c'est l'élément le plus important. J'ai étudié l'architecture et j'ai eu beaucoup de chance. Ma première semaine d'études, l'architecte Louis Kahn donnait un cours. Il a dit, étudiant, commencez par la lumière. Très souvent, la lumière vient après coup. Au théâtre, par exemple, les gens écrivent des pièces, ils les mettent en scène, ils les font répéter. Et avant la première, ils règlent les éclairages. Moi, je commence par les lumières. Pour moi, la lumière, c'est l'élément qui nous permet de mieux entendre, de mieux sentir. On peut éteindre toutes les lumières dans une pièce et n'éclairer qu'un verre de lait. Continuer de parler et sentir que la lumière sur le verre de lait est un participant actif. Sans lumière, il n'y a pas d'espace.
C'est passionnant, parce que ce que vous nous dites, en fait, c'est que la lumière structure l'espace scénique et permet de lui donner une forme. Qu'est-ce que c'est pour vous, d'ailleurs, une scène de théâtre ? Quel lieu est-ce que c'est ?
Einstein a dit que la lumière était la mesure de toute chose. Pour moi, on commence par l'espace. L'architecture fondamentale de l'espace, c'est le temps et l'espace. Et pour moi, le temps, c'est comme un axe vertical qui va vers le centre de la Terre et qui va dans les cieux. Et l'espace est un axe horizontal. Et c'est ce croisement du temps et de l'espace. C'est l'architecture fondamentale de tout, de la façon dont on joue Mozart au piano. Vos doigts appuient sur une touche qui va frapper une corde. Donc c'est une façon de structurer l'espace architecturalement.
Mais alors la scène de théâtre, pour vous, c'est un lieu magique ?
J'aime particulièrement la scène, l'avant-scène en éperon et quelque chose qui se produit derrière. Et c'est un autre monde. Ce n'est pas le monde que je vois dans la rue. Ce n'est pas le monde que je vois dans mon salon, dans ma chambre à coucher. C'est un autre monde. On peut peindre avec de la lumière. La lumière, c'est ce qui crée l'espace.
On va en reparler de scène, d'espace, de magie, de corps aussi. Juste après Ella Fitzgerald, That Old Black Magic. Après tous ces Noëls, vous êtes sur France Inter avec Bob Wilson. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
That old black magic's got me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And when that elevator starts its ride, dialing down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. You're the lover, you're the lover, you're the lover, you're the lover I have waited for. The mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go. Spin. I'm loving the spin I'm in. I'm under that old black magic called love. Yes, I'm in a spin. I'm loving the spin I'm in. I'm under that old black magic.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est un roc, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. On est quelque part entre la statue d'un grand seigneur antique, rescapé d'une éruption volcanique, et le vieux chêne sur lequel on s'allonge le temps d'un petit roupillon. Il a le cheveu d'une blancheur neige, l'œil bleu ciel texan, la carrure d'un demi de mêlée, l'air impassible du gladiateur au repos avec son costume noir et sa chemise blanche. Ce matin, une petite bouteille d'eau dans la main, le metteur en scène Bob Wilson, invité de Boomerang, pour parler de théâtre et d'images. Dans votre enfance, Bob, cette enfance dans le Texas des années 40, quelle place avaient-elles les images, vous dont le premier désir était d'être peintre?
Je voulais devenir peintre et j'ai essayé de peindre sur toile, mais quand j'ai commencé à travailler sur scène, au théâtre, j'ai pu faire des choses que je ne pouvais pas faire par la peinture sur toile. Je crois que le paysage du Texas est dans toute mon œuvre. Je suis allé étudier à New York. Ce que j'ai apporté avec moi du Texas, c'est le vaste ciel, le désert, cet espace, que je fasse la flûte enchantée de Mozart, un opéra à Paris, Mary avec Isabelle Huppert, le paysage du Texas est toujours présent.
Et la lumière du Texas, vous l'avez emmenée aussi ?
Chaque pays, chaque ville a sa propre lumière. Et la lumière du Texas n'est pas la lumière de Paris. Paris, des artistes y viennent depuis des siècles à cause de sa lumière. Il y a des années, lorsque j'étais étudiant, je suis allé à Bruxelles. Et je me suis dit, oh, c'est la lumière de Magritte, la lumière de la Belgique. Elle est différente de la lumière du Texas. San Francisco a sa lumière, la Grèce a sa lumière.
Mais comment vous la définiriez, la lumière du Texas ?
Je ne sais pas si je peux la définir. C'est quelque chose que l'on éprouve. On dit que les ions de l'atmosphère sont différents. C'est pourquoi la lumière en Grèce est si différente.
Comment est-ce qu'étaient considérés les arts et les artistes dans la famille dans laquelle vous avez grandi?
J'ai été élevé au sein d'une famille très conservatrice, une famille pieuse de droite. C'était un péché d'aller au théâtre. Je ne suis donc jamais allé dans un musée ou à une galerie d'art. Il n'y avait simplement pas d'environnement culturel où j'ai grandi. Mais, enfant, j'étais toujours intéressé par la peinture. Et ma mère disait, « Oh, Bob pense toujours au dessin. Il a toujours un crayon à la main, comme je le fais en ce moment d'ailleurs. » Depuis très jeune, je suis toujours en train de croquer, de dessiner, de faire un schéma pour m'expliquer et représenter ce que je pense.
Mais vous vous souvenez de la première fois où vous avez été frappé par la beauté d'une œuvre d'art, Bob Wilson ?
Ma mère me l'a dit, je l'avais oublié. J'avais environ 2 ans. Je suis venu tôt un matin près de son lit, j'ai dit « Maman, maman, réveille-toi, viens voir ». Elle s'est levée, le soleil se levait, et j'ai dit « Regarde comme c'est beau ».
Ça, c'est la plus belle des œuvres d'art.
Oui, certainement.
Ce qui est intéressant, Bob Wilson, c'est que vous avez évolué dans un monde où les images étaient très rares. Or, aujourd'hui, les images sont partout, et notamment sur nos écrans. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, ce trop-plein d'images ?
Dans la production que je monte actuellement avec Isabelle Huppert, il n'y a pas de décor, c'est essentiellement une scène vide, de nombreuses successions d'éclairages. Mais il n'y a rien de plus beau qu'un espace vide, une pièce vide. Alors d'habitude, je commence par une pièce vide. J'ai commencé cette œuvre avec Isabelle. J'ai commencé à ajouter des éléments scéniques, beaucoup de décors qui me sont passés par la tête. Et c'était beaucoup plus beau au début quand il n'y avait rien. Je viens de prendre un vol de New York et je suis arrivé ici il y a quelques heures. On regarde par le hublot en avion et on se dit,
oh,
il y a tellement d'espace. On oublie finalement qu'il y a tellement d'espace dans le monde. Le théâtre peut aussi être un soulagement pour nos vies très occupées. On y entre et il y a tellement d'espace.
Et le temps, Bob Wilson, qu'est-ce qu'il représente pour vous, le temps ?
Le temps, il est important pour toute mon œuvre. Il est structuré avec l'espace. J'ai fait des pièces qui durent 24 heures, 12 heures, 7 jours, et des œuvres qui durent 30 secondes. Et quand vous travaillez sur une œuvre de 30 secondes, vous prenez des décisions différentes de celles pour une pièce qui dure 7 jours. C'est une façon de structurer les espaces avec le temps. Je ne veux pas que ça soit rapide, je ne veux pas que ça soit lent, quelle que soit la construction spatio-temporelle qui est la raison fondamentale pour faire une œuvre ou la mettre en scène.
Mais dans tous les cas, c'est éphémère, que ça dure 30 secondes, 7 heures ou 7 jours. Est-ce que c'est pas ça qui fait la force du théâtre aussi ?
La beauté du théâtre, vous avez absolument raison, elle existe et demeure dans notre esprit. Lincoln Kirstein, à la fin des années 50, a dit de la danse moderne n'aura pas de tradition. Je regarde le travail que nous avons accompli dans les années 60, 70. Ça s'appelait des happenings. Bergson, les galeries d'art, dans les rues, les parkings, les toits. Ces œuvres n'étaient pas censées être vues à nouveau. Cette pièce qui durait 7 jours, je savais que ça ne serait produit qu'une seule fois. Cette pièce de 24 heures, la première œuvre commandée par Michel Guy pour le Festival d'automne à l'Opéra Comique, il n'y a eu qu'une seule représentation. On allait donc voir une œuvre qui allait durer 24 heures, mais c'était comme une étoile filante. Elle ne se reproduirait jamais.
Au début de cet entretien, Bob Wilson, vous avez cité John Cage, je crois. Il se trouve qu'il a écrit plusieurs livres, en plus d'être musicien, dont un qui s'appelle Silence, Silence. Je crois que c'est ce livre-là que vous citiez. Vous dites que c'est l'une des plus belles choses, des choses les plus importantes qui vous sont arrivées dans la vie.
Cage m'a fait connaître une façon de penser extrême orientale, la pensée zen. Et mon éducation, comme celle de la plupart des auditeurs de cette station, nous avons une éducation occidentale qui remonte aux Grecs. Nous faisons les choses pour une raison. Mais dans la philosophie zen, vous n'êtes pas contraint de faire quelque chose pour une raison. C'est une manière totalement différente de ressentir le temps et l'espace. Et Suzanne Sontag a dit, ressentir quelque chose, c'est une façon de penser.
Alors quand vous pensez à John Cage, qu'est-ce que vous entendez ?
Cage était un plasticien, un philosophe, un compositeur. C'était un artiste de la Renaissance. C'est difficile, véritablement, de le définir. Mais pour moi, pour ma génération, la génération juste avant moi, et même celle d'aujourd'hui, il a introduit une façon totalement différente de penser. Et ce n'était pas l'école de pensée enseignée dans les écoles.
Alors c'est intéressant parce qu'on a commencé cette émission en parlant de silence, mais votre art, il repose aussi sur des mots, sur des voix. Vous avez mis en scène des opéras comme Madame Butterfly de Puccini, L'or du Rhin de Wagner ou encore Péléas et Mélisandre de Debussy, mais aussi des textes de Shakespeare, de Beckett, de Tchekhov ou de Jean Genet. Pour vous, quel est le pouvoir des mots, Bob Wilson ?
Le pouvoir des mots, c'est qu'ils peuvent encourager nos pensées. Un mot, c'est comme un rocher. Si vous prenez une masse et que vous brisez ce rocher, le réduisez en morceaux, dans les parties déconstruites, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions et d'idées. Là, si vous lisez Hamlet, il y a des millions de façons de le lire, d'y penser. C'est pour ça que c'est tellement profond. Ça encourage la réflexion. Au théâtre, nous travaillons avec des mots qui sont parlés, qui se relient à notre intelligence, et la musique qui affecte notre côté spirituel. Les mots peuvent encourager la pensée. Ils ne devraient pas la limiter. Ils devraient ouvrir nos esprits à des idées multiples. Lisez Shakespeare une nuit, relisez-le la nuit d'après et vous le lirez d'une façon totalement différente. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le lire, c'est plein d'idées. Ce n'est pas intemporel, c'est plein de temps.
Merci infiniment, Bob Wilson, d'être venu faire un tour dans cette émission et merci à votre interprète ce matin, le très théâtral Michel Zlotowski. Merci aussi à la technique, à Chantal Nouvelot. On attend avec impatience, Bob, de vous retrouver sur scène, ou plutôt dans l'ombre de la scène, avec un nouveau spectacle, juste après une chanson de Noël. On va pas se laisser aller quand même.
I'd have Christmas in the...